et messieurs, ladies and gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien.
Bonsoir, c'est dimanche, c'est 22h. C'est la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org que tu écoutes du coup. Alors peut-être là tu te vas couper parce que hein, je voulais pas écouter la causerie. Bah tant pis, on est là pour une heure. Et à la technique, c'est Clara.
Bonsoir.
On a aussi Jean-Yves autour de la table.
Bonsoir, et c'est Fab qui fait l'ouverture.
Bonsoir. Alors, si tu veux écrire à la causerie, tu écris à lacausericanu@gmail.com. lacausericanu@gmail.com. Et si tu veux écouter les anciennes émissions, tu vas sur blogs.radiocanu.org/lacausserie. Et là, tu nous trouves. Ou alors, tu vas sur radiocanu.org et tu cherches la causerie et tu vas nous trouver. Et ensuite, sinon, tu peux aussi nous trouver sur des trucs de podcast. Alors là, c'est pas compliqué. Tu tapes la causerie canu et tu devrais trouver normalement la causerie si tout se passe bien et si tout va bien. Et si tu ne nous trouves pas, c'est que nous ne sommes pas sur cette plateforme de podcast. Pas de bol. Mais on est sur plein d'autres. Donc voilà, cherche-nous. Et je crois que j'ai tout dit.
C'est ça, le principe reste toujours le même. Où vous soyez, cherchez la causerie canu.
Voilà.
Oui, le son dans les casques est absolument dégueulasse.
Ouais.
Je sais pas ce qui se passe.
Bah, il touche au câble, alors voilà, du coup, ça part en cahuète.
Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. Oui, pardon, auditeur, auditrice, tu t'en fous complètement, mais notre confort auditif est important. Non, mais enfin.
Oui.
Voilà.
C'est Fab qui ouvre le bal.
Ouais.
Et qui va nous parler de religion, de liberté.
Ouais, alors
un petit peu
moi
passé,
j'avoue que je m'étais dit que pour cette dernière avant la coupure, j'avais envie de faire un sujet léger. Et vraiment, hein, j'étais parti pour, hein, vraiment. Hein. Je regardais du côté des trucs autour de la sexualité, et quoi que c'est pas toujours léger, mais voilà, du vivre ensemble, et même de comment les jeux vidéo sont en fait bons pour la santé. Mais bon, ça, j'y reviendrai après la coupure. Même en été, comme tu disais, il y a un truc qui vient nous pourrir un peu la vie, c'est les religions. Vous savez, ce truc millénaire qui a décidé de se rappeler à nous, là, en ce début de mois d'août. En ce moment, elles ont un peu le vent en poupe, hein, les religions. Alors, je vais le redire, les. Hein, j'ai mis un pluriel. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'on parle que d'une tout le temps. Mais non, c'est les. Toutes les brouilles. Ben, bref. Alors, on va commencer par un petit voyage. Et donc, je vais vous emmener au Maroc. Et sachez quand même qu'au Maroc, vous pouvez prendre 2 ans de prison pour avoir ri. Voilà. Je vais vous parler en fait de Fatima Karim. Hein. Fatima Karim, vous la connaissez peut-être, parce que c'était mon cas, vu que c'est une blogueuse et tiktokeuse de 39 ans, qui a un succès assez intéressant sur les réseaux sociaux, enfin elle est quand même pas mal suivie, et elle n'est pas influenceuse mais humoriste, hein, parce que j'ai lu, maintenant vous savez, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes influenceur. Non, en fait elle est humoriste, elle se réclame de ça, d'ailleurs elle fait des vidéos d'humour, c'est son credo, et donc son idée c'est de rire de la société et de ses travers. Elle a des super vidéos, d'ailleurs je vous invite à lire regarder sur comment vous vous faites draguer au Maroc. Elle a tout un tas de vidéos assez drôles sur quand vous êtes une femme au Maroc, comment on vous drague.
Voilà. Et ces vidéos sont encore accessibles?
Alors oui, parce qu'elles sont sur des plateformes américaines. Ah oui, okay. Donc elles n'ont pas été censurées. Donc vous pouvez donc vous taper Fatima Karim, hein, vous allez la trouver sur la plupart des supports. Donc elle est donc marocaine et dans une vidéo datant d'il y a quelques mois, elle a eu l'idée de rire de certains versets du Coran et de leur côté en fait décalé par rapport au réel. Elle a fait ce qu'on fait depuis des centaines d'années, c'est-à-dire rigoler des textes sacrés. Donc les vidéos elles sont drôles, satiriques, elles n'ont rien d'extraordinaire. Hein, je veux dire, c'est pas, y a pas d'insulte, y a rien. C'est juste elle raconte, elle prend un verset et elle essaie de le faire coller à la vidéo. Aujourd'hui, et en fait, elle dit bah, si on vivait comme c'est écrit, on aurait des soucis. Genre, par exemple, tu ne dois pas appuyer du pied gauche sur, après avoir appuyé du pied droit. C'est un exemple qu'elle donne. Et c'est compliqué pour conduire une voiture. Et donc voilà, c'est un peu le genre de truc. Voilà, c'est vraiment de l'humour, c'est potage. C'est pas, voilà. Et même d'ailleurs, si ça avait été insultant, c'était même pas grave, mais ça l'est même pas, hein, pour vous expliquer. Donc, selon la loi marocaine, en fait, elle s'attaque à travers la religion directement au roi. Mmh. Et là, vous me direz, avec quoi ? Oui, attendez, vous voyez pas le lien ? Je vais vous expliquer. Alors, le roi actuel, Mohamed VI, serait un descendant direct du prophète Mohamed en ligne directe. Parce que Dieu là-haut, il a besoin de VRP sur Terre et lui, c'est un VRP en chef. Vous voyez, c'est voilà. Donc ça me fait rire de dire ça comme ça, mais c'est un peu comme ça. Et attention, hein, parce que rien ne le prouve, mais c'est dit. Donc c'est comme ça. Un peu comme la religion, vous voyez. On vous a dit qu'il était descendant d'eux, c'est comme ça. Donc c'est quand même la classe, hein. Vous êtes descendant d'eux. Et donc, Fatima Karim, en se moquant donc gentiment du Coran, tombe sous le coup de la loi qui fait que plusieurs dizaines de Marocains et Marocaines aujourd'hui sont derrière les barreaux. C'est la fameuse loi qui régit l'atteinte à la famille royale et au roi, mais aussi le blasphème et le fait de s'attaquer à la religion musulmane. Voilà. Alors, vu que le roi est commandeur des croyants, vous voyez, donc c'est-à-dire que c'est le chef en chef là-bas, hein, ça rigole pas, hein, sur Terre. Parce que, ah ouais, non, parce que Mohamed VI, c'est sur Terre. Hein. Ah bah, oui. Pas sur le royaume du Maroc, ah hein, c'est commandant des sur Terre. Et que selon lui, donc selon Mohamed VI, coule dans ses veines le sang d'un prophète. Ouais, alors, ils sont nuls en biologie, hein, mais c'est pas grave. On le sait, hein, ils ont toujours pas compris, mais bon. Eh ben, en fait, le fait de dire du mal d'un verset qui a été dit par le descendant direct fait qu'en fait, vous dites du mal de toute la famille sur 20 générations. Vous voyez? C'est un peu compliqué, mais c'est ce qui est appliqué. Donc, pour ces vidéos comiques, au nom de la loi sur l'atteinte au roi et donc à l'interdiction du blasphème, Fatima Karim écope de 2 ans de prison ferme. Hein, voilà. Alors, elle va faire appel, mais elle sait qu'elle a très peu de chances de voir la condamnation annulée, hein, faut être très clair, parce que c'est l'article 267.5 du code pénal marocain, qui a été révisé très récemment, d'ailleurs à la demande de Mohamed VI, qui dispose que quiconque porte atteinte à la religion musulmane ou à ses représentants peut écoper de 6 mois à 2 ans de prison ferme et 5 ans si on estime que cela a été fait en public. Voilà, hein, donc il y a assez peu de chances qu'elle s'en tire, elle en est bien consciente. Hein. Donc c'est cool de passer ses vacances dans les riads marocains, hein, n'est-il pas ? Et on comprend d'ailleurs mieux pourquoi le Marrakech du rire de Jamel Debbouze impose aux comiques de ne pas parler de religion ou de sexualité trop ouvertement. Et que lorsqu'il est diffusé au Maroc, une partie des sketchs diffusés sur M6 en France sont coupés.
Ah ouais.
Voilà, bah ouais, parce que ouais, c'est un deal. Voilà.
Ah mais de toute façon, c'est du soft power, hein, de Marrakech du rire de Jamel Debbouze, c'est du soft power du Maroc. Hein.
Donc évidemment, si je vous parle de Fatima Karim, c'est parce qu'on lui apporte tout notre soutien. On ne peut pas faire grand-chose à part la mettre en lumière, et c'est ce qu'on fait ce soir. Mais alors, je vais continuer le voyage. Et on va se balader en Arabie Saoudite, où là-bas, vous pouvez prendre 34 ans de prison pour apologie de la liberté. Oui, parce que la liberté, c'est mal, sachez-le. Alors, elle s'appelle, parce que c'est souvent des femmes, hein, qui sont condamnées, vous remarquerez quand même, c'est assez fréquent. Donc, elle s'appelle Salma Al-Shehab, pardon, et elle est doctorante à l'université de Leeds, au Royaume-Uni. Et elle a eu la très mauvaise idée d'aller voir sa famille dans le royaume d'Arabie Saoudite pendant ses vacances. Elle a été arrêtée et envoyée devant un tribunal d'urgence, vous savez, ces fameux tribunaux qui ont été mis en place pour lutter contre la, je cite, « sédition et le terrorisme dans le royaume ». Fermez les guillemets, mais aussi contre les atteintes envers le wahhabisme, cette version intégriste en place dans le pays de l'islam, qui est une version de l'islam sunnite. Voilà. Donc elle avait fait un appel du premier jugement, hein, qui était moins fort que ce qu'elle a reçu là. Elle était condamnée à 9 ans de prison. Et la cour d'appel a décidé que finalement elle confirmait la condamnation, mais qu'elle augmentait la peine à 34 ans de prison et une interdiction de quitter son pays pendant 34 ans après sa sortie de prison. Donc en gros, elle va mourir en Arabie Saoudite, c'est ce que dit gentiment le tribunal. Mais qu'a donc bien pu faire cette dangereuse criminelle ? Est-ce qu'elle a fomenté un coup d'État ? Parce que ça pourrait être ça. Est-ce qu'elle a tenté de renverser le régime par le soulèvement d'une partie de la population ? Eh bien, cela n'aurait d'ailleurs pas pu justifier la condamnation, mais en fait, ça aurait pu expliquer la lourdeur de la peine. Mais alors, pas du tout. Elle est accusée de propos, je cite, visant à déstabiliser l'ordre public et de propos, je cite toujours, niant les vertus intrinsèques de l'islam. Voilà. Et aussi de propos, parce que ils ont rajouté ça à la cour d'appel, tout ça manquait, portant atteinte au réel par diffusion d'informations fausses ou malveillantes. Et là, vous vous dites, mais est-ce qu'elle était vraiment malveillante, Salma Al-Shehab, dans ce qu'elle disait? Ben en fait, non, le crime dont elle est accusée, c'est d'avoir en fait relayé sur Twitter des positions politiques féministes et pour la sécularisation de la religion. Oui, parce que Salma Al-Shehab, elle est chiite dans un pays sunnite. Et donc, en fait, elle a moins de droits, parce que c'est comme ça en Arabie Saoudite. Et donc, elle est pour la sécularisation de la religion. C'est-à-dire que tous les citoyens d'un même pays aient les mêmes droits. Ça, c'est pas bien. Vous avez compris, c'est pour ça qu'elle est condamnée. Mais en plus, elle revendique l'égalité homme-femme dans le pays. Et attention, elle a osé tweeter, et accrochez-vous, parce que c'est quand même très très grave ce qu'elle a tweeté. Elle a osé tweeter, il est inadmissible qu'une femme touche la moitié d'un héritage par rapport à son frère. Et ça,
c'est donc, un scandale. Voilà.
et ça, c'est donc un propos portant atteinte au réel, par diffusion d'informations fausses ou malveillantes. Voilà, c'est-à-dire que comme c'est une loi islamique, c'est très très mal. Hein. Alors elle ne pensait pas que son Twitter, qui est suivi par 2600 personnes, ait été surveillé. Honnêtement, elle l'a dit dans une interview, elle n'imaginait pas, elle avait un Twitter un peu confidentiel, en plus elle avait un pseudo, donc voilà, pour elle c'était plus entre étudiants, on va dire, parce qu'elle est étudiante. Mais en fait c'était sans compter sur un agent du comité pour la promotion de la vertu et de la prévention du vice. Vous savez, c'est ce truc qui est rattaché au ministère des Affaires religieuses en Arabie Saoudite, et qui est un petit peu l'équivalent des trucs de la vertu
des gardiens
de la révolution en Iran.
Ouais.
Voilà, donc ce sont des gens qui sont payés pour faire de la délation. Hein, voilà, tout simplement.
Là, tu y vas vraiment trop, je pense. Ce sont des gens qui sont là pour vérifier le respect
de la vertu.
De la vertu. C'est une nuance quand même, hein. Voilà. Importante.
Donc Salma Al-Shehab, est aujourd'hui placée en détention dans l'attente d'une éventuelle révision de sa peine par la Cour suprême d'Arabie Saoudite. Mais quand on sait que la Cour suprême est constituée de proches des imams rigoristes du pays, il y a peu de chances qu'elle sorte de prison, malheureusement, du moins pas sans une pression internationale forte et sans qu'on prenne son cas en cause, parce que sinon...
Ouais, en plus, si elle est sunnite, tu disais ?
Ouais,
elle est chiite dans un pays sunnite.
Ouais.
Et quand on sait que c'est une guerre, une des raisons en ce moment de pas mal de conflits et de tensions entre différents pays de la zone, effectivement, il y a peu de chances en fait qu'on aille réviser son procès positivement. Quoi.
Alors, il faut savoir quand même que c'est la plus forte condamnation pour ce mobile-là. Mm. Bon, ça tombe sur une femme, hein, doit être un hasard, encore une fois. Mais vous voyez, c'est...
Mais Raif Badawi, c'était pas aussi en Arabie Saoudite ?
Oui, mais c'était 10 ans.
Ah alors, oui, mais il avait aussi cette interdiction ensuite de 10 ans au moins de quitter le pays.
Ouais. Et après, il avait eu des prolongations de peine parce que soi-disant, il avait mal parlé à ses geôliers. C'est quand même terrible de se plaindre quand on vous bat. Hein, donc voilà. Je fais un peu d'humour, pardon, mais des fois l'humour, ça aide un peu à supporter les choses. Alors on va aller partir après sur le fameux kebab pour la liberté, hein, c'est-à-dire l'attentat contre Salman Rushdie.
Ah.
Pardon, je fais de l'humour noir ce soir. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est comme ça en fait que dans les journaux intégristes et conservateurs iraniens, et pas que iraniens, hein, dans plusieurs pays, en fait, ils ont représenté Salman Rushdie en kebab. Vous voyez, pour dire que c'était bien qu'on le découpe.
Bah comme quoi, ils aiment la caricature.
Ouais, comme quoi, quand ça va dans
leur sens. Faut qu'elle aille dans leur sens.
Bon, moi, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, donc je vais pas revenir sur l'attaque en elle-même contre Salman Rushdie. Hein, c'était un attentat, très clairement. Mais sur une chose, en fait, le mec de 24 ans, non, je vais pas citer son nom, j'en ai marre de faire de la propagande de la pub pour ces gens, qui a perpétré cette attaque l'a bien fait selon ses dires pour honorer sa religion et venger le prophète. Il l'a dit dans deux interviews qu'il a données, donc voilà, c'est ses propos, c'est pas voilà. Et il plaide donc non coupable, car il estime qu'il avait la légitimité de le faire. C'est super rassurant, n'est-il pas
dans sa logique, ça se tient, dans son point de vue.
Je voulais quand même en parler, parce que je me suis dit que c'était quand même assez énorme, parce que je ne comprenais pas pourquoi il plaidait non coupable.
Ouais, moi non plus.
Il l'a expliqué dans une interview, parce qu'il n'a rien fait de mal.
Lui, il est droit dans ses bottes.
Ah non, mais il est logique, au moins.
Entre guillemets.
Alors on va partir quand même un petit peu du côté du Brésil aussi, parce que je vous fais voyager ce soir.
Quel formidable tour du monde. Tu nous fais rêver.
C'est exactement ça.
Alors, au Brésil, Bolsonaro a décidé de s'allier à deux puissantes églises pour gagner les prochaines élections. Alors, si le président d'extrême droite du Brésil, Jair Bolsonaro, est à la traîne dans les sondages, parce qu'effectivement, a priori, d'après les sondages, il aurait du mal à retrouver son poste, il a su trouver à qui s'allier pour tenter de s'assurer la victoire. Et il n'a pas pris n'importe quel modèle, il a pris Donald Trump. Il s'est dit « Ah ouais !» Donald, ça a marché.
Enfin, c'est pas que dans ses soutiens qu'il a s'est inspiré de Trump, parce que c'est aussi dans sa tactique actuelle.
Ah ouais.
C'est-à-dire que Jair Bolsonaro est déjà en train de préparer le fait qu'il va potentiellement perdre en disant que
c'est
tout le système qui est truqué, etc., etc. Donc ça rappelle beaucoup Trump.
Sachant quand il a gagné, c'était pas truqué du coup. C'était le même système entre nous.
Ouais, mais ça c'est une logique que tu peux pas saisir d'où tu es.
Donc pour faire comme Trump, Bolsonaro a donc scellé une alliance avec les congrégations catholiques et protestantes, les deux principales du Brésil, les deux courants religieux majoritaires au Brésil aujourd'hui, pour s'assurer que dans les prêches du dimanche, son nom soit subtilement glissé.
Amen, Bolsonaro. Comme ça, quoi. C'est
subtilement. On en rit, mais par contre, il faut savoir que, parce que moi, j'ai fait 2-3 recherches quand même, parce que je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment efficace, ce genre de truc? Alors, je pense que oui. Mais est-ce que vraiment ils prêchent, et dans les prêches, ils font de la politique. Et en fait, au Brésil, comme aux États-Unis, il est assez fréquent en fait que le prêtre ou le pasteur vous dise attention, tel candidat, c'est le candidat du diable, donc faut pas voter pour lui. Donc ça a un poids quand même.
Ah bah oui.
Alors oui, parce que moi je sais que la laïcité c'est mal pour plein de gens, tout ça, mais enfin ça évite quand même un petit peu ça.
Un
tout petit peu. De l'extrême droite à l'extrême gauche, on a plein de gens aujourd'hui qui disent la laïcité c'est pas terrible. Bon, enfin voilà, moi personnellement je trouve que c'est un minimum,
pour survivre ensemble, en fait.
De survie. Et ça permet quand même d'éviter ce genre de truc, quand même, c'est pas mal. Alors, puisqu'on parle des catholiques, je vais continuer parce que voilà. Les catholiques, ils se sont rendus compte d'un truc, c'est qu'ils perdent des parts de marché. Et alors ça, quand on est une multinationale de l'abrutissement, c'est un peu emmerdant quand même.
Surtout quand on a eu le poids qu'elle
a eu. Normalement, je
suis...
les cathos, normalement, c'est number one. Les cathos, c'est Elon Musk. Donc là, ils se disent, ouh, attends, ça va pas. Alors, ils avaient le choix entre faire une voiture électrique ou trouver un autre système. Ils se sont dit, on sait pas faire des voitures. Donc, leur vrai problème, c'est le continent africain. Parce que les catholiques, ils ont une double pression sur le continent africain. Ils ont la montée de l'islam, qui quand même s'installe beaucoup et assez fortement sur le continent, mais aussi en fait l'arrivée de la Chine, qui dans un soft power pas du tout idiot, fait de la pub pour le mieux-disant dans le pays, et qui a tendance à aller plutôt appuyer les islamistes et l'islam là où ça l'arrange. Voilà. Parce qu'elle a des meilleurs liens avec eux. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être un truc...
Mais c'est pas le même pouvoir chinois
qui les opprime chez eux.
De toute façon, la politique a ses raisons que la raison ignore.
Voilà. Bon, donc du coup, le Vatican, il a eu une idée. Il s'est dit, dis donc, faut quand même qu'on retrouve des parts de marché. Donc il a dit,
j'imagine bien, tu sais, une réunion autour d'une table avec des PowerPoints. On a une baisse des quotes-parts.
Ça doit pas être loin de ça quand même, faut pas rêver. Donc il a décidé, le Vatican, de débloquer de l'argent. Ah, il paraît qu'il en avait pas pour indemniser les victimes, vous savez, nombreuses dans le monde des abus de l'Église. Mais il a de l'argent quand même pour implanter plus d'écoles catholiques sur le continent africain. Donc c'est marrant. De l'argent, il y en a, mais pas tout le temps.
C'est marrant, on dirait les États.
Ouais, c'est un peu. Ah, mais c'est le Vatican, c'est un État en même temps. Voilà. Alors, quand même, parce que, à part quelques candides, penser que l'Église catholique se fait chier à placer des écoles de partout dans le monde, ce serait par pure charité, c'est un petit peu illusoire, Donc, ce sont des outils de propagande et de prosélytisme. Et ça marche d'ailleurs, Le but étant quand même, et ça, c'est dans la doctrine de l'Église catholique, que la plupart des élites des pays riches passent par des enseignements catholiques. Et aussi, d'ailleurs, si maintenant, si les pays pauvres pouvaient aussi avoir des élites qui passent passer par là, parce que c'est tellement plus facile ensuite pour aller leur demander quelques faveurs.
Bah, de toute façon, oui, c'est... Voilà. Les religions ont le cœur sur la main, bah ouais, et la main dans ta poche.
Et nous,
c'est souvent comme
c'est...
ça.
C'est vrai.
Mais c'est souvent comme ça.
Et d'ailleurs, ça n'est pas du tout inquiétant quand on sait qu'Emmanuel Macron est passé par les jésuites. Hop là, alors encore.
Ah bah oui, donc, et puis enfin, on peut prendre,
pas que lui, hein.
Ouais, on peut prendre un paquet. Plein. Il y en a beaucoup, oui, dans, oui, les dirigeants politiques qui sont proches de courants religieux.
Ouais.
Alors pour rappel, c'est un vieux titre, mais je vous invite à écouter le titre Religion de rapace.
Ouais, tout à fait.
Il parle justement des liens entre les politicards et des
à l'Opus Dei en particulier.
L'Opus Dei en particulier,
très,
effectivement.
Très puissante. Alors on va partir maintenant en Inde.
Youpi!
Parce que quand même, ouais, petit tour des trucs entre État et religion. Donc, je l'avais nommé Maudit soit maudit, parce que je trouvais que ça faisait classe et ça faisait un peu bouquin. Voilà, alors en Inde, donc c'est pour la blague surtout. En Inde, pour relancer sa campagne et faire oublier quand même sa gestion terrible de la crise du Covid. Ouais, alors parce que je vous rappelle, vous le savez peut-être pas, mais qu'en Inde, il y a des élections qui se profilent là, dans les mois qui viennent. Et ces élections extrêmement importantes parce qu'en fait, l'Inde est fédéraliste et sont renouvelés en fait plusieurs États. Et potentiellement, Modi pourrait perdre la majorité. Donc, il est un petit peu en train d'essayer de regagner des États qu'il a peur de perdre. Donc, il voulait faire aussi oublier sa gestion terrible du Covid et sa défaite face aux paysans. Je vous rappelle que Modi, il a dû céder face à l'énorme, on avait parlé dans la causerie,
l'énorme, oui, il y a eu un énorme blocage
de,
mois,
voilà, qui a été très, très très beau, hein, quand même, à voir. Donc bah là, Modi, il peut compter quand même sur ses proches alliés en ce moment, les prêtres et brahmanes hindous. Ah ouais. Alors d'abord, il faut savoir qu'il a changé la loi en Inde, ce qui permet quand même maintenant que uniquement les hindous puissent avoir une part des temples financés. Voilà, c'est-à-dire qu'il a explosé la loi sur la laïcité indienne.
Oui, parce qu'on l'oublie, mais
c'était laïque,
l'Inde
là,
était laïque.
Ouais. Donc, en,
enfin,
fait,
en Inde aussi, les castes sont censées être abolies. Mais,
alors, bon. Je vous rassure, il a fait ça comme en France, comme avait fait Jack Lang, hein, c'est-à-dire que c'est pour préserver les monuments
bâtiments
historiques,
hein, mm-hmm,
évidemment.
Ah, oui.
C'est bien connu.
Parce
voilà.
Qu'un bâtiment qui vieillit, on ne peut pas du tout se le réapproprier pour en faire autre chose.
Bah non, non,
il faut,
bah,
forcément,
non, faut quand même retourner y prier.
La foi, quoi.
Donc, et figurez-vous qu'il a donc décidé de lancer une grande campagne d'appel à une Inde unie et hindoue. Hein, voilà, uniquement. Autrement dit, l'oppression des musulmans, catholiques et autres présents en Inde au nom de l'unification et de la purification du pays. Oui, oui. Ah, ça sonne bien. Ah, bah, il est quand même d'extrême droite, Modi.
Ouais,
hein,
ouais, ouais. Voilà.
Donc, on estime en fait qu'en 5 mois, il y a déjà eu plusieurs milliers de morts, mais aussi des exodes, des pillages, des maisons incendiées, en lien, et des lieux, des commerces incendiés, en lien direct avec cette fameuse campagne de réhindouisation de l'Inde. Hein, voilà. Donc, on passe par le biais religieux, une fois de plus. Bah, bien entendu, il est quand même rappelé par Modi lui-même que le pire du pire, c'est d'être athée. Voilà. Parce qu'il paraît que quand t'es athée, c'est fou.
Donc pour lui, être athée, c'est même pire qu'être musulman, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est dans sa classification.
Non, mais c'est pas pour dire, oui, les musulmans,
non,
je sais pas quoi. Hein,
mais non,
c'est
mais dans sa classification.
Dans sa classification haineuse et hindouiste.
Voilà, je pense que sous les athées, il y a les femmes chez Modi. Mais c'est ça le truc. Voilà, bon. Encore une fois, c'est une alliance entre religion et politique, hein, du plus bel à loi, hein, n'est-il pas? Voilà. Et alors, je fais ça pour l'anecdote, mais il faut savoir qu'en ce moment, il y a un groupe qui s'appelle le Bloodywood, dont j'avais passé des titres, qui est parti en tournée européenne, et vous savez qu'ils se revendiquent ouvertement athées, anti-caste et tout. Et en fait, ils l'ont écrit ce matin, ils sont pas sûrs de pouvoir rentrer en Inde. Vous voyez, ça va jusque là. Et pourtant, l'Inde est une démocratie.
Ah ben, bah, attends, si Modi parle de purification, évidemment,
voilà.
Métal qui diffuse un discours matérialiste,
c'est ça,
et anti-caste.
Et ce matin, ils expliquaient qu'il y aurait peut-être des difficultés et que ça les étonnait. Parce que voilà, ils voient que leur visa, enfin tout ça, il y a tout un tas de trucs qu'ils n'arrivent plus à avoir sur leur matériel. Enfin bref, on les fait chier surtout, quoi. Ils se disent que c'est volontaire et je pense que c'est volontaire. Voilà. Donc, alors, comme c'est l'été, on peut continuer à mettre la tête dans le sable, hein, si on veut, il n'y a pas de problème, c'est sympa. On le dit souvent, nous, à la causerie. On ne comprend pas vraiment pourquoi le combat anti-religion est si faible chez les progressistes et chez les gens de gauche et les anards. Et le résultat, en fait, pourtant, il est là. Hein, elle progresse encore et toujours. Et là, j'ai pris tout ça, en fait, sur une semaine. Hein, c'est ce que je vous ai reporté là, c'est une semaine d'infos. C'est pas énorme, hein, voilà. Elles progressent, donc du coup, elles imposent par la peur et la fourberie leur vision du monde. Elles façonnent le monde comme elles le désirent, un monde de soumises et de soumis, serviles, et au service d'eux, évidemment, parce que sinon c'est pas marrant. Alors moi je sais que les vacances sont propices, hein, comme je disais, à se mettre la tête dans le sable, mais quand même. Alors oui, j'ai ce soir sans doute enfoncé des portes ouvertes hein, pour certains, j'en ai bien conscience. Jusqu'à des gens qui m'écoutent, qui vont dire c'est la 10e fois, 100e fois, 42 dans la causerie. Pardon, mais en fait, sur une seule semaine, je le redis, j'ai sorti ces infos-là. C'est quand même hallucinant qu'en une semaine se soit passé tout ça, et ça démontre le poids des religions. Et encore, je ne suis pas remonté à 2 semaines en arrière, je ne suis pas remonté à 3 semaines. Ouais. C'est juste énorme. C'est-à-dire que toutes les semaines, vous avez des gens qui sont enfermés pour des délits de blasphème. Toutes les semaines, vous avez des gens qui sont opprimés parce qu'on se sert de la religion comme outil d'oppression. Toutes les semaines, vous avez des gens à qui on interdit des choses parce que tel livre saint ou sacré a écrit... voilà. Et tout ça, en fait, c'est courant. Et on est là à se dire, c'est pas grave. Ben en fait, si.
Ben oui, et puis surtout, enfin, là, on parle de cas qui reviennent jusqu'à nos oreilles.
Oui, ou, ah oui, oui, parce qu'il y a tout ce qu'on ne sait pas, évidemment.
Je veux dire, enfin, en fait, la problématique, c'est quand même, j'ai quand même souvent l'impression que dans ces milieux, dans nos milieux, finalement, on a beaucoup de gens qui défendent les religions, mais qui ne les ont jamais subies.
Oui.
Et en fait, enfin... De mon point de vue, qui a été élevé, on va dire, sous le poids du religieux, alors, de manière assez soft, mais quand même, avec toutes les peurs que ça distille, avec... tous les outils en fait d'oppression que sont les religions, ben vraiment j'aimerais vraiment inviter ces gens à prendre un petit peu un pas de recul sur ce qu'ils sont, sur d'où ils parlent, parce qu'ils aiment bien dire il faut pas parler à la place d'eux. Ben justement, en fait, écoutez un petit peu les ex-croyants, parce que ça existe en fait hein. C'est pas parce qu'on grandit dans une religion qu'on est obligé de rester adossé à cette religion. On peut toutes les rejeter, et on peut vouloir, en tout cas on peut estimer que les religions sont un poison pour l'humanité, ouais, pour les cerveaux et pour les individualités. Et que si on revient autant de fois sur ces sujets-là, bah c'est peut-être parce que c'est nécessaire en fait.
Bah oui.
Et ce qui est marrant quand même, c'est qu'on relèvera pas le nombre de fois on pourra revenir sur le capitalisme par exemple.
Ouais.
Alors que le capitalisme, on le subit aussi tous les jours. Mmh. Et ben le religieux, c'est pareil en fait. À un moment donné, il va falloir arrêter de faire une différenciation entre les différentes oppressions. Bah écoute, alors si vous jugez que les religions ne sont pas oppressives, tant mieux pour vous. Bah,
c'est que vous les subissez pas.
C'est que vous les subissez pas.
Je vais faire un parallèle. Hein. C'est un peu comme les gens qui voient pas de problème dans le capitalisme. Souvent, c'est qu'en fait, ils n'en subissent pas la violence.
C'est ça.
Et en fait, c'est ça qui est assez intéressant. C'est que souvent, les gens qui ne voient pas de problème dans la religion, soit en fait, c'est parce qu'ils sont à la tête de ces religions et qu'en fait, ils en profitent. Soit qu'ils ne les subissent pas parce qu'ils sont en dehors et qu'en fait, ils refusent de voir l'oppression que c'est.
Ouais. Et puis des fois, ils ont aussi un petit côté paternaliste. Ouais. Tu sais, chez eux, c'est comme ça. Mais chez eux, qui quoi en fait. Enfin, genre, c'est génétique la religion. Et je repense justement, oui, pardon, mais c'est le genre de sujet, ça me. Surtout le genre de réaction qu'on évoque qui m'agace assez particulièrement. Mais je repense aussi à une personne que j'ai pu lire sur les réseaux qui disait oui, mais moi j'ai milité avec des gens qui sont croyants et qui sont anards.
Oui, moi aussi.
Oui, en fait. mais.
L'un n'empêche pas l'autre. Mais...
Oui, et puis il existe aussi des poissons volants,
ouais.
Mais qui ne représentent pas la majorité de l'espèce.
Ça, ouais.
Et qu'en fait, à un moment donné, il faut arrêter de me faire croire que les religions ont dans leur base une quelconque émancipation. Je veux dire, le contrôle des corps en ce moment qu'il y a partout là.
J'allais en parler.
J'allais
dire que moi j'aurais quand même pu aussi vous parler du poids des églises en Amérique du Sud et du Nord d'ailleurs aussi, hein, aux États-Unis et au Canada, parce qu'en ce moment il y a des débats aussi au Canada autour de plein de sujets qu'on entend. Par écho avec les États-Unis, du retour aussi des talibans en Afghanistan, hein, des sectes diverses et variées qui gangrènent l'Europe. Et je ferai sans doute dans d'autres causeries, pardon, hein, comme tu disais, on va revenir sur le sujet, moi je vais revenir sur le sujet. Mais à un moment donné, c'est simplement que pour moi, en fait, il est temps en fait de se réveiller, de concrètement repartir au combat. Et quand on dit de partir au combat, c'est pas juste dire c'est pas bien, c'est vilain, hein, parce que voilà, c'est aussi aller démonter toutes ces idioties qui sont racontées, c'est aussi. Par exemple, ne pas trouver normal que vos impôts financent la diffusion des différentes croyances le dimanche matin, par exemple, parce que c'est la redevance hein, qui paye ça sur France 2. Et vous dire aussi, par exemple, que vous en avez peut-être un peu marre à un moment donné qu'on restaure des églises à tour de bras, même quand elles n'ont aucun intérêt historique, puisqu'il y en a plein en France qui sont classés monuments, mais qui ne sont pas des monuments.
Ou aussi, par exemple, qu'on verse 70 millions d'euros au clergé en Alsace-Moselle, par exemple.
Et rien que ça, c'est un début de combat. Après, je vous parle pas d'aller brûler des églises ou des
autres, mais
parce que je suis en train de dire. Mais juste, à un moment donné, c'est poser le fait que ben vous avez le droit aussi de dire, en fait, ça va, ça suffit, j'en ai marre, quoi, en fait. Voilà.
Mais c'est ça, et puis se cacher toujours derrière. Oui, mais il y a des croyants. Oui, en fait.
Mais
en fait, les croyants, il y a quelque chose derrière, en fait. Les croyants, s'ils sont croyants, c'est bien qu'ils croient en quelque chose, et ce quelque chose est tenu par des clergés, en fait.
Et leurs textes, surtout.
Oui.
Moi, je trouve assez hallucinant. Tu parlais du capitalisme. Je trouve très bien quand on m'explique, par exemple, que le capitalisme a tout prévu pour l'oppression d'une classe sur une autre, blablabla. Mais qu'on ne voit pas qu'en fait, le parangon des religions, c'est de faire exactement la même chose et de créer un clergé, de créer quelque chose qui oppresse, qui opprime et qui surtout retombe en premier lieu sur les femmes et les LGBT, systématiquement, où que ce soit dans le monde.
Ça hiérarchise les humains, en fait.
Oui,
et en fait, il y a les croyants. En fait, pardon, mais dans chaque religion.
Les croyants, les athées,
oui. Mais oui, non, mais c'est surtout.
Les mécréants, pardon.
Il y a les croyants de cette secte ou cette religion, vous appelez ça comme vous voulez, mais la différence, c'est juste une reconnaissance étatique. Hein.
Ouais,
mais
c'est une carrière.
En fait, c'est toujours. Oui, c'est ça, c'est une secte qui a réussi une religion. En fait, c'est toujours le fait que. Oui, en fait, ce sont les croyants de cette secte qui sont les bons. Donc, ce qui veut dire déjà que tous les autres ne sont pas bons, ils se trompent, ils n'ont pas lu le bon livre, etc., etc. Donc, ça hiérarchise à mort, en fait. Quoi.
Et donc, en fait, il en va pour moi de nos libertés individuelles et collective, parce que c'est ça le problème, et c'est pas un fantasme. Aujourd'hui, on voit, et je le redis, on voit le poids des religions, effectivement, dans les mouvements extrémistes qui prennent le pouvoir à droite et à gauche, mais vous l'avez aussi dans les, ce qu'on appelle les démocraties libérales. Je veux dire, le poids de la religion aujourd'hui aux États-Unis, par exemple, le poids de la religion en France, dans les débats autour du mariage pour tous, de la PMA, de la GPA et de tout ça, est énorme. Et en fait, en réalité, le nier, continuer à faire silence face aux religions, aux sectes et aux spiritualités diverses et variées, qu'on nous dit, ce n'est qu'en fait que l'outil dont elles se serviront pour construire les cages dans lesquelles elles rêvent de nous enfermer. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, en fait, on continuera à leur servir la soupe. Donc moi, je vous le dis, si vous aimez la causerie parce qu'elle est anticléricale, revenez. Si vous n'aimez pas la causerie parce qu'elle est anticléricale, revenez quand même, vous apprendrez peut-être des trucs.
ouais. Mais oui, c'est une lutte de longue haleine et comme on le dit souvent, les religions ont le temps.
Ben oui,
elles n'oublient jamais leur objectif.
C'est bien pour ça qu'il faut que nous, on prenne le temps aussi de démonter tout ça.
Oui.
Donc voilà. Mais je suis désolé, je ne vous ai pas fait un sujet léger.
Ben moi, je serais un peu plus léger.
On y croit.
Ben oui.
Un peu de musique.
Allez,
de
on musique. Y go. Eh bien, c'est toujours la causerie sur l'antenne de Radio Canu, comme d'hab, du dimanche de 22h à, le dimanche de 22h à 23h. Et on vient de s'écouter une collaboration entre Asna et Anyone ID, et pour le titre, Abyssa.
Et ouais. C'était bien. Ouais.
Ah, moi j'adore.
Et du coup, c'est un DJ, c'est ça ?
Alors, Anyone ID, c'est un DJ parisien. Ouais. Et Asna, c'est une DJ beatmaker de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est leur rencontre avec des sons tradis et un peu
électro.
Mais c'est ce qu'elle disait, c'est que quand elle avait entendu ces sons dans une cérémonie, machin, elle a dit en fait, j'ai l'impression d'être à Berlin dans une soirée trans, quoi. Donc voilà. Donc elle s'est dit, bah tiens, on va mélanger ça avec de l'électro, et puis voilà.
Et c'est toi qui, justement, tu disais, je vais faire plus léger. Alors, c'est pas tout à fait vrai quand
mais
même.
Si, c'est
mais tu vas
léger.
Nous parler de BD et
c'est
de livres.
C'est ça. Ce soir, deux petites BD pour vous, hein, pour bien terminer l'été. Nous, on va commencer l'été, en tout cas, on va commencer les vacances.
C'est pas une BD et un livre, j'aurais mieux placé
ça
en livre.
Ouais, ça reste de la BD d'une certaine manière, mais d'accord. Effectivement, t'as raison, c'est pas dessiné.
C'est pas dessiné en tant que tel.
Il y a un petit peu de dessin quand même.
D'accord.
Bon. Enfin bon. Pour terminer cet été, hein, au choix, en compagnie d'un dictateur et ou d'un serial killer. C'est pas beau ça comme fin d'été ?
C'est hyper plus léger.
Ben voilà, vous voyez, moi je savais que j'allais égayer votre soirée. Donc les deux BD hein, sont édités par les éditions Lapin, c'est une petite maison d'édition villeurbanaise. Tiens. Et donc, deux BD qui sont l'œuvre de Trab au scénario, dont je vous avais déjà présenté la trilogie Jésus Sixte dans la causerie 327 et la causerie 439, et Donovan qui est au dessin pour l'une des deux BD. Alors, vite fait, hein, comme d'hab, hein, vous le savez avec moi en tout cas, si vous écoutez régulièrement, c'est que j'aime bien présenter. Les artistes hein, ou les dessinateurs et tout ça. Donc Trab hein, au scénario, né en 88, auteur de nouvelles avant de rapidement passer au strip d'humour noir dont il est fan, tout comme du trash et potache, tiens on n'aurait pas cru, et scénariste donc de Family Freak, première BD en 2015, de Prouchi, le nourson polisson, toujours aux éditions Lapin, en 2017 et 2019, et donc de Little Boy, enfance d'un certain Kim Jong-un. Oh, j'en ai trop dit. Qui est sorti en 2020. Et Donovan, quant à lui, en fait, c'est un illustrateur diplômé de l'école lyonnaise de dessin Émile Cole. Il crée tout un tas de petits personnages jouant en couleur. Il a un compte Instagram, je crois d'ailleurs. Si vous cherchez Donovan, dessinateur, vous allez trouver. Et effectivement, c'est très. Waouh, c'est flashy, quoi. Et il aime aussi beaucoup la mode et a déjà collaboré avec quelques marques de streetwear. Et Donovan a pour objectif de créer sa propre marque de vêtements et Little Boy. Et sa première BD. Et donc justement Little Boy hein, qui est sorti en octobre 2021. Vous connaissez toutes et tous hein, le grand Kim Jong-un. Trab et Donovan nous invitent à découvrir l'enfance, mais pas que, de ce grand dirigeant nord-coréen, il faut le dire avec la main sur le cœur, de cette petite graine de dictateur, c'était formidable. Et on peut dire hein, qu'il y avait des petits signes avant-coureurs de ce qu'allait devenir Little Boy. En même temps, faut dire qu'il avait aussi un terreau pour cela quand on pense, quand on voit son papa, le grand Kim Jong-il. Et donc voilà, hein, donc on voit le petit Kim Jong-un malmener ses jouets ou ses copains, on ne sait plus trop d'ailleurs. Du moins avec ses jouets de petits enfants, il arriverait à nous faire croire que c'est réel. Et voilà. On découvre hein, qu'il est colérique, qu'il déteste perdre. Il n'aime pas non plus être contrarié. Il peut s'énerver beaucoup pour ça. Et encore moins être humilié. Et qu'il a aussi une forme d'obsession hein, pour les bombes, les missiles et les mises à mort.
C'est étonnant.
C'est un truc qui kiffe, hein, ça se voit, il s'énerve fort et il tue beaucoup. Et il y a aussi, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a aussi des clins d'œil à deux autres grands dirigeants, hein, à savoir Vladimir Poutine et Donald Trump. Il faut quand même se souvenir qu'il y a eu quelques petites accroches, dirons-nous, entre Donald Trump et...
Ils étaient copains-copains hein.
Avant d'être copains-copains, ils n'étaient pas
très copains.
D'abord, ils n'étaient
pas copains, après ils étaient copains.
C'est ça.
Voilà. Non, mais c'était compliqué.
Donc, ce qui fait que, il y a des petits...
Il y a une bromance tendue entre les deux.
Il y a des petits clins d'œil comme ça à ces deux grands dirigeants américains et russes. Bref, on navigue donc entre l'imaginaire des auteurs et le réel de certains faits, de certains actes, et aussi d'autres déclarations de la famille nord-coréenne, et on sait plus trop en fait si on rit du réel ou si on rit de la création artistique, et c'est un mélange assez intéressant. Donc le format, il est sympa aussi, c'est un petit format A5, ça se glisse très vite, très bien dans une poche et autres, avec une histoire par page en deux ou trois cases maxi, et Alors, c'est justement, le format est très bien pour certaines choses, et il y a un petit truc aussi là, c'est que parfois ça coince au niveau du format. En tout cas, on sent que certains dessins ont dû être rapetissés en fait pour rentrer dedans, et ce qui fait qu'il y a certaines bulles qui deviennent presque illisibles, et ou alors c'est peut-être moi qui ai des problèmes de non-œil. C'est possible aussi, mais il n'y a pas que ça. Et non, parce qu'en plus, c'est marrant parce que j'ai lu justement une critique aussi qui disait, bah pareil, en fait, c'est, des fois, c'est un petit peu illisible. Donc, mais c'est vraiment le seul point négatif et il ne faudrait surtout pas que ça vous empêche de lire pour ça. Parce que c'est vraiment, c'est très bon, c'est irrévérencieux, pardon. C'est trash, c'est du trab. Hein, si vous avez lu Jésus Sixte, vous y êtes habitué, c'est de la même teneur, et du Donovan, et donc en même temps, ça permet de rappeler que bah, le réel se suffit parfois à lui-même, tant le pouvoir coréen est horrible, et vraiment, il y a des trucs, tu dis juste... Ouais,
Nord-coréen.
J'ai dit quoi ?
Coréen.
Ah pardon, oui, Nord-coréen. Nord-coréen, donc voilà, donc je rappelle, hein, c'est Little Boy aux éditions Lapin.
Ça donne envie.
Bah écoute, tant mieux, en plus, ça se lit vraiment très vite, ça se grignote.
Non mais en plus je trouve que c'est marrant parce que comme c'est quand même un gars qui est connu pour détester tout ce qui est caricature machin tout, je trouve ça très drôle d'avoir un petit bouquin.
Mais
comme
je crois qu'il s'excuse au début.
Ils ont raison, faut toujours s'excuser.
Ils s'excusent au début. Et donc la deuxième petite BD, parce que c'est toujours dans ce format A5 dont je vous parlais, bah, c'est le petit livre rose d'un serial killer. Et cette fois-ci, c'est l'œuvre du seul Trab. Alors,
on est même presque plus proche de la nouvelle.
Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est parce que vraiment, oui, t'as raison. C'était au sujet de ce livre-là que Fab disait, c'est plus un roman. Et effectivement, on est dans une majorité d'écrits. Avec quelques petits dessins quand même. Alors c'est l'histoire hein, de Billy Gilly, enfin plus exactement c'est son journal intime. Quand sa maman est morte, il a décidé de devenir quelqu'un. Un serial killer sera la seule possibilité à sa hauteur.
Ça c'est le problème des trucs d'orientation à l'école.
Ouais, c'est... non mais il a regardé, hein, puis on suit vraiment son évolution. Hein.
Bon, serial killer. Alors.
Ouais, il a regardé différents trucs en se disant télé-réalité, il est pas assez beau pour ça. Rockstar, il sait pas jouer de la musique. Acteur de ciné, ma gorge n'est pas assez profonde. Voilà.
Évidemment.
Me faire adopter par la famille Kardashian, j'ai une interdiction d'approcher de leur domicile à moins de 3 km, etc. Donc vraiment, il a étudié le terrain, il a vu ce qu'il était capable et il restait que serial killer. Et voilà. Donc,
Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Hein.
C'est ça en fait. La vie n'est pas toujours un choix. Donc voilà. Et donc, pardon, je me remets dans ma petite lecture quand même. Mais Billy est un brin loser, même dans les meurtres qu'il commet. Et ça se ressent vraiment pas mal. Pour preuve, hein, les premiers meurtres qu'il commet dans la maison de retraite où il travaille bah, seront tous qualifiés de morts naturelles.
Ça pour un serial killer, c'est con.
Bah, genre, c'est vraiment la loose, quoi. Enfin, je veux dire, si tu veux marquer, tu vois, la société, bon, bah, mort naturelle, ça veut juste dire que t'étais pas là, quoi. Alors qu'en fait, si, mais enfin, bon, bref. Bref, il y a du taf jusqu'à pouvoir être un grand serial killer. Mais il fera tout son possible. Il tâchera de se perfectionner pour gagner ce statut. Ça, c'est important d'arriver à ses fins.
Ça, c'est ça, des gens positifs qui se dépassent, qui ne lâchent rien.
C'est ça. Moi, je trouve qu'il y a vraiment. Il y a un espoir derrière tout ça. Là. On précise, on est au second degré, hein, si vous ne l'aviez pas compris.
Oui, quand même, on ne fait pas l'apologie des serial killers.
Non, quand même pas. Donc, de jour en jour, hein, on suivra ses péripéties, ses questionnements, ses envies, ses projets et aussi ses souvenirs pleins d'amour. Enfin, ses souvenirs. Parce que souvent, ils vont être étranges pour pas dire dérangeants. Voire très dérangeants, en fait. Hein. Et le tout est agrémenté de jolis, que dis-je, de superbes, de formidables petits dessins digne d'un enfant de 5 ans. Et c'est absolument magnifique. C'est absolument laid, mais c'est tellement beau. Ainsi que... ah oui, il y a donc ces petits dessins, mais il y a aussi toute la comptabilité. Parce que je veux dire, c'est bien beau de tuer du monde, mais il faut se souvenir de combien t'en as tué. Donc,
faut un tableur,
à chaque fois qu'il tue, on a une petite barre en plus dans le livre. Et voilà, on peut suivre son palmarès. Et ça, c'est quand même pas mal, quoi. Donc voilà. Et on peut peut-être même, qu'au milieu de tout ça... Hein, eh ben, il va peut-être connaître l'amour. Peut-être.
Oh, c'est beau.
Ouais, je sais, c'est tellement beau. Et sans oublier aussi son papa et sa maman qui ne sont jamais très loin. Empaillés ou congelés, mais jamais très loin. Donc c'est quand même important aussi d'être bien entouré. Donc oui, hein, c'est complètement barré, c'est politiquement incorrect à souhait. Et Billy est une ordure sans nom, hein, qu'on soit très clair. Hein, vraiment,
mais oui, c'est... mais c'est ça qui vient.
Donc âme sensible, s'abstenir. Par contre, celles et ceux qui aiment, qui adorent l'amour trash, l'humour noir, J'ai dit quoi ?
L'amour.
L'amour.
Alors,
oh,
on va dire plutôt.
Oh merde.
L'amour crash. Voilà. Ça sera mieux.
Voilà. Bah, je ressors de là, j'irai faire une petite séance thérapeutique parce que. Donc ouais, si vous aimez l'humour bah ouais, trash, l'humour noir, et ben jetez-vous dedans, mais parce que vraiment c'est absolument délicieux. Donc je
lis
un petit, ouais, je
oui,
lis.
Tu veux passer à côté ouais. Alors que nous on a, avec Lara on a dit oui, lis nous la petite page.
C'est ouais, c'est la deuxième page. Hein, la toute première, il se présente très vite. Il parle à son journal. Hein, il dit pourquoi il l'a choisi, pourquoi il n'avait pas le choix. Et donc on passe au deuxième jour, hein, donc le 28 septembre. Je lis. Hein. Aujourd'hui. Maman est morte, juste le jour de son anniversaire. Dans son dernier souffle, elle m'a dit « Billy, tu es le diable. Tu as été adopté. » Je n'ai malheureusement pas très bien compris la fin, sûrement dû au coussin que je lui ai appuyé sur le visage. Cette année, moi, j'avais décidé de lui offrir un beau cadeau, le repos éternel. Toute sa vie, elle a souhaité que je devienne quelqu'un, même si dernièrement, nos relations se sont un peu tendues. Par exemple, la semaine dernière, je me suis endormi sur le canapé. J'avais la bouche ouverte et cette coquine me jetait des petits boulons dans la gorge pour ce que je m'étouffe. Malgré ses tentatives de meurtre, je dois lui faire honneur. J'ai donc juré sur sa tombe, le congélateur, que je deviendrais quelqu'un. Moi, Billy Gilly, je... C'est marrant, il y a comme une drôle d'odeur dans la maison. Bouge pas, je vais vérifier. J'ai trouvé, c'est maman qui a la couche pleine. Elle me fera chier jusqu'au bout, hein. Elle me manque déjà. Et alors vous le voyez pas là, mais tout au bout, il y a un petit cœur avec écrit maman dedans. C'est vraiment touchant. Et bon, à côté, il y a aussi une petite crotte dessinée. Voilà, ça donne le niveau de l'ouvrage, hein, c'est-à-dire un grand ouvrage, un grand auteur. Je pense qu'on en parlera encore dans des siècles et des siècles. Donc je rappelle, hein, c'est le petit livre rose d'un serial killer de Trab aux éditions Lapin.
Ouais.
Donc et, ouais.
Ouais, moi je voulais juste dire, en fait, souvent les gens comment dire, ont une image en fait du serial killer qui nous vient des États-Unis et des séries télévisées et tout. Et en fait, je crois que Trab dans son livre est beaucoup plus proche de ce qu'est réellement quelqu'un qui est un serial killer. Enfin,
il est dans
voilà,
sa réalité.
C'est ça. Il y a une transgression et un décalage de la réalité. Les gens s'en rendent pas compte. Il y a des livres qui avaient été écrits. Tu m'en as parlé.
Oui, bah parce qu'en fait, c'est marrant. Trab dit oui, super. Il cite Stéphane Bourgoin. Voilà. Qui dit que c'est un petit bijou du monde noir, ce livre, et qu'en fait, ce Stéphane Bourgoin, en fait, c'est l'auteur de Le Livre Noir des Serial Killers, ouais. Et c'est un spécialiste, en fait, français des Serial Killers.
Parce qu'en fait, on a toujours tendance à croire qu'ils sont forcément froids, méchants, vous savez, comme on les présente beaucoup
alors
dans les films.
Alors que là, non, c'est sa maman qui est froide, mais lui, et son papa empaillé, mais lui, il est chaleureux.
Non, mais en plus, c'est vrai, et quand, aux États-Unis notamment, les gens sont passionnés par les procès filmés des Serial Killers, est-ce qu'il est passionne, c'est pas le fait de la morbidité, parce que souvent il y a des gens qui disent ah mais c'est parce que, mais en fait non, c'est parce qu'ils découvrent en fait la personnalité, et des fois ils se rendent compte qu'il y a des gens qui prennent pour des fous et qui en fait sont très presque touchants, c'est-à-dire que moi j'avais suivi, alors pas un procès complet, mais il y avait eu un très bon reportage qui avait été fait je crois par France 5 ou Arte, sur une femme serial killeuse, une des rares qui a été attrapée aux États-Unis. Et en fait, bah, quand elle arrivait au tribunal, moi je croyais que c'était une victime. En fait, c'est pas bizarre, mais en fait, elle avait une espèce d'accoutrement, de façon d'être. Et en fait, non, c'était elle. Mais elle expliquait que, bah, un peu comme le début de ton livre, avec des mots très simples, des choses qui étaient extrêmement horribles, mais qui pour elle étaient normales. Et bon, la première personne qu'elle avait tuée, c'était sa voisine parce qu'elle faisait trop de bruit la nuit et que ça l'empêchait de dormir. Du coup, elle n'était pas efficace au travail le lendemain et qu'elle se faisait engueuler par son chef et que du coup, fallait supprimer la cause d'engueulade avec le chef et c'était donc la voisine. Et elle expliquait ça, mais avec une espèce de logique en disant bah oui, mais vous auriez fait quoi à ma place, enfin, c'était pas loin, il manquait que ça à la fin de la phrase, et tout était comme ça. Et en fait, on se rend compte que l'image qu'on a, qui est très hollywoodienne en fait, du monstre, ben non, en fait c'est des humains, et c'est des humains juste un peu déréglés quelque part dans leur tête, mais en fait, en réalité, ils sont souvent plus proches de la personne sympathique que du monstre. Et je trouve que d'en rire et de le souligner comme ça avec un quasi enfant adulte qui tient un journal intime, ben en fait c'est beaucoup plus proche finalement par l'humour de ce que peut être réellement la majorité des gens qui commettent des crimes de ce genre là. Je parle bien des serial killers, hein, je parle pas d'autres trucs. Voilà, et c'est intéressant.
Et on rejoint en fait toujours ce truc, c'est-à-dire que quelqu'un assassiné ou je sais pas, enfin vraiment Enfin, je veux dire, je sais pas, mais on va toujours interviewer des voisins en disant non, mais en fait, il était normal.
Oui, c'est ça.
Il était gentil. Bah oui, en fait. Enfin, je veux dire.
C'est pas écrit sur.
En fait, mais ça rejoint un sujet, je crois que j'avais déjà fait. C'est sur le. En fait, on rend toujours l'autre monstre.
Mais en fait,
il est humain. Et en fait, il évolue des fois dans des sphères différentes, avec des repères différents. Ça veut pas dire que je suis pas en train d'excuser quoi que ce soit. Hein.
Non,
en fait, c'est l'être humain et dans sa complexité peut être du plus joli au plus affreux et au plus dégueulasse. Enfin,
non, mais c'est juste que
ça reste des humains. Quoi.
C'est juste que par exemple, ce qu'on voit dans les séries américaines, du gars qui.
Ah oui,
dit,
mais c'est toujours ce mal, le bien, voilà. Donc le mal, on le reconnaît.
En fait, et ben, ça rejoint ma première chronique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une vision dualiste, oui. C'est-à-dire très moraliste et très religieuse du monde, où il y aurait le bien, le mal, où il y aurait les adorateurs de Satan et les gentils.
Oui, et le mal, on le reconnaît.
Et le mal, on le reconnaîtrait, alors qu'en fait, non. Et c'est ça le truc. Et moi, je trouve quand même en plus très drôle de faire de l'humour noir là-dessus.
Ah bah là,
parce que voilà, des fois, ça fait du bien aussi de rire de l'horreur.
Ah bah là, vous serez servi.
Voilà.
Et ben, je propose qu'on passe à la musique.
Au 102.2 sur radiocanu.org et on vient d'écouter Wet Leg, oui, le groupe Wet Leg avec Wet Dream. Et oui, c'est deux nanas qui parlent de sexe, c'est mal. Voilà.
C'est très très, c'est mal.
C'est très très mal. C'est blasphématoire.
Les gardiens de la pureté sont.
Non, mais en tout cas, voilà, découvrez Wet Leg parce que c'est vachement bien. Alors, leur premier titre qui passe un peu partout en ce moment, c'est Chaise Longue, sur une chaise longue. Voilà, c'est pareil, ça parle aussi de sexe. Elles aiment bien parler de sexe.
Ben,
voilà.
C'est très bien.
Mais oui, il faut.
Eh ben, on touche à la fin de cette émission. Alors, avant de vous quitter, on va juste vous inviter à aller au Cinoche.
Ouais.
Vite fait, bien fait. C'est pour aller voir Les Vieux Fourneaux 2.
Alors, la suite.
Vous savez peut-être, je crois qu'on vous avait parlé au moins des BD.
Oui, et puis du film aussi.
Et du film aussi. Et ben là, le film, enfin, le deuxième film autour des Vieux Fourneaux est sorti. Et. Vraiment, on vous invite à y aller. C'est un mélange, comme dans la BD, c'est-à-dire d'humour bien sympa et aussi de thèmes politiques sérieux.
Très sérieux.
Et là, le titre de ce deuxième film s'appelle Les Vieux Fourneaux 2, bon pour l'asile. Et l'asile, on peut le lire dans deux sens différents, soit être interné pour aller à l'asile, d'une certaine manière, et aussi demander l'asile, voyez ? Vous voyez le truc ? Donc ça va parler de réfugiés, ça va parler
d'entraide.
D'entraide aussi.
Ça va parler de rapport aux autres, ça va parler de
préjugés. De rejet, et puis finalement de rencontres, et de discussions, et de la police, et de l'État, et des règles, et toutes ces bêtises qui régissent la vie de trop de monde, et qui enferment trop de monde, et qui excluent trop de monde. Donc vraiment, c'est hyper beau. On est toujours entre le rire et le sérieux, et en même temps c'est aussi assez touchant parce que justement il y a aussi derrière toujours cette dénomination de réfugiés. Quand c'est pas migrant, ben en fait c'est des humains, et ça laisse dans ce film de la place pour ces humains là qui vont rencontrer d'autres humains qui vivent déjà ici et qui eux peuvent avoir des préjugés, des peurs, etc., etc., pour leur motoculteur ou autre. Et qu'en fait souvent on traverse pas la mer pour s'occuper ou pour s'intéresser aux motoculteurs du voisin. Non, c'est souvent pour fuir une réalité et essayer de vivre en paix là où ils peuvent arriver à vivre.
Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que si Les Vieux Fourneaux, premier film, était une adaptation quasi linéaire de la première BD, là c'est toujours Wilfried Vulpano qui est au scénario, hein, y a pas de souci. Sauf qu'il a pris la décision, et ce qui est plus cinématographique à mes yeux, de mélanger, de sortir un petit peu de la linéarité de la BD et de mélanger des histoires, même si vous retrouvez, si vous êtes lecteur, vous allez retrouver plein de trucs qu'il y a dans la BD, plein de personnages, plein de situations.
De lieux,
voilà. Mais il les a réagencés pour que ce soit un peu plus cinématographique, parce que le cinéma, c'est pas le même exercice que la BD. Moi, j'avais beaucoup aimé le premier film, et je lui avais un peu reproché son côté très linéaire et très bédéiste, en fait, finalement. Je trouvais que là, je trouve le deuxième, finalement, plus abouti d'un point de vue cinématographique. Là, c'est plutôt à titre personnel que je dis ça. Et puis, on retrouve un trio, alors même si un des acteurs a changé, mais on retrouve le trio de nos trois petits vieux, toujours interprété par...
par Eddie Mitchell,
Pierre Richard. Et du coup, Lecoq qui prend la
Bernard Lecoq,
ouais, qui rejoint la bande là, et qui sont juste fabuleux en vieux militant. Enfin, je trouve vraiment, et voilà, et j'espère vieillir comme ça, je vous le dis, moi personnellement, j'espère avoir toujours cette verve-là et cette envie-là, passer 80 ans, parce que voilà. Et puis, moi, je voulais saluer, parce que juste comme ça, si vous allez voir le film, Alice Paul, parce que j'aime beaucoup cette actrice, et aussi Claire Nadeau, qui est dans le film, et qui est juste géniale. Voilà. Donc, j'ai pas d'autres mots. Elle est juste géniale. Voilà. Et ça fait du bien.
Carrément.
Voilà.
Donc, c'est la petite invitation de la causerie pour ces trois semaines qui viennent, parce que nous, on sera pas là pendant. On vous retrouve dans trois semaines.
On vous retrouve le 18 septembre
à
22h.
C'est ça, sur l'antenne de Radio Canu. Et évidemment, on invite toutes celles et ceux qui n'ont pas pu nous écouter peut-être les dernières semaines. Et faites-vous plaisir. Si ça vous fait plaisir, vous pouvez réécouter toutes ces émissions que vous aurez ratées pendant vos vacances à vous. Mmh. Parce que maintenant, c'est à nous. Et donc voilà, donc nous on vous donne rendez-vous, donc comme tu l'as dit, dimanche 18 septembre à 22h sur l'antenne de Canu. D'ici là, portez-vous bien.
Oui, et on se quitte,
et on se quitte en musique. Ah, c'est moi qui l'annonce.
Encore une fois.
De toute façon, c'est un peu lui qui a pris le pouvoir.
Il a pris le pouvoir, c'est ça.
C'est tout à fait ça.
Le problème.
Il est temps que vous vous en rendiez compte.
C'est lui qui lit des trucs sur Kim Jong-un. Ça part complètement oreille depuis.
Dites-vous. Tant mieux pour vous que je me sois inspiré de Kim Jong-un et pas de Billy Gilly. Enfin, peut-être que je reviendrai seul dans trois semaines, ça. On verra.
Pourquoi t'as commandé un friseur?
Un grand congélateur. C'est parce que je vais faire à manger pour beaucoup de monde. Et on va se quitter avec un tout nouveau titre, le tout nouvel extrait du prochain album de Sean qui va sortir. Alors je sais jamais si on dit Sean. Ouais, je sais pas. Enfin, bref. Et le titre, c'est M.I.A. Ouais. Et alors, on suppute que ça parle. Alors, c'est pas que ça parle, mais en fait, ça doit être M.I.A. Ça doit être un peu un raccourci d'une maladie ou on ne sait pas trop.
C'est mental. Mais en tout cas, ils naissent et je ne sais plus ce qu'elle
a. En tout cas, le titre est en soutien ou en tout cas en remerciement. Je sais pas comment on peut le tourner, mais des personnes qui sont autour de vous quand vous allez pas bien et quand vous êtes même en dépression, et que c'est ces quelques personnes qui vont tenir un peu votre monde pendant que vous êtes dans une chute, et que c'était un peu le cas du chanteur, et qu'il avait envie de remercier les gens qui ont été là quand lui était en dépression totale. Et que là aussi c'est un sujet peut-être qu'un jour sur lequel on reviendra, mais la dépression, c'est souvent une chose qu'on tait dans nos milieux, et qu'en fait la dépression touche beaucoup de monde et que je trouve que c'est important aussi de parler des gens qui restent avec vous quand vous, vous allez mal, parce que finalement oui, c'est eux qui tiennent un peu la baraque, qui vous tiennent vous aussi à bout de bras parfois, mais qui vous tiennent et que, qui font que vous n'êtes pas seul. Voilà, j'ai tapé mon monologue tout seul, mais
non,
attends, c'est un monologue, mais c'est voilà. Non, mais c'est juste,
je cherchais ce qui était MIA,
mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé,
et voilà.
Mais ce qui fait que je trouve que c'est hyper intéressant et hyper important de aussi parler de ça, de la dépression, mais aussi des gens qui sont autour de vous quand vous êtes dans cette situation là. Et je vous invite évidemment aussi à regarder le clip qui est très joli aussi, avec un bug, avec une difficulté à se lever, et puis finalement peut-être qu'on arrive au bout à se relever. Donc voilà, donc nous on vous donne rendez-vous dimanche le 18 septembre.
Oui.
Et puis ben d'ici là, portez-vous bien, bon courage à celles et ceux qui vont reprendre le taf, qui vont reprendre l'école aussi, parce qu'il y en a. Et puis bon courage aussi à ceux qui sont enfermés chez eux, en prison, à l'hôpital. Tout ça, tout ça.
Bah oui.
Et puis ben voilà, nous, à dans 3 semaines, on vous dit.
Allez,
on vous fait des bisous.
Au 18 septembre, et Clara avait raison, on n'a pas fini à l'heure. Des bisous tout
des
le
bisous,
monde.
Ciao.
Salut.
Ciao.